Vous écoutez Europe 1, belle journée, il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que c'est vous les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur notre facture énergétique. Trop élevée, disent les gilets jaunes. Alors, on a cherché des moyens de la faire baisser en France et on en a trouvé quelques-uns, vous allez voir. Direction Chambéry aussi, c'est là qu'est née Alpina Savoie en 1844. C'est là aussi qu'elle se trouve toujours, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, des prestations réalisées par des étudiants pour leur donner un petit coup de pouce, c'est possible, c'est Student Pop et c'est la solution aujourd'hui. C'est ça, la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, vous connaissez le numéro du standard. Venez, venez, on vous attend. Vous avez la parole tous les jours. Anissa, venez nous dire, tiens, comment vous vous y prenez-vous pour faire baisser votre facture d'énergie?
Bah oui, partagez toutes vos astuces du quotidien. Donc au 3921, vous l'avez dit Raphaël, hein, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis, on lit également tous vos messages, toutes vos réactions et vos questions aux invités de Raphaël Duchemin sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Oui, parce que l'énergie, vous le savez, c'est une des raisons qui a poussé notamment les gilets jaunes dans la rue. Alors, on n'a pas la prétention, hein, c'est vrai, de tout régler ici, mais on a essayé de trouver quelques solutions qui marchent et qui permettent de faire baisser la note. Pour accueillir nos invités, à mes côtés ce lundi, Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin.
Bonjour Raphaël.
Ravi de vous accueillir dans l'émission. Vous allez nous éclairer, nous donner toutes les petites infos qui nous ont échappé. Et puis notre coach du jour, c'est Frédéric Mazella. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Fondateur de Blablacar, habitué évidemment de la France qui bouge. Pour faire des économies, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir tout simplement s'il n'y avait pas d'autres moyens, par exemple pour se chauffer, et évidemment en creusant on a trouvé. Bonjour Sébastien Maté.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez l'usine Sinerval, elle est au Mans depuis 5 ans et cette usine, elle est un peu spéciale. Elle existe depuis 1975 et ce sont tout simplement les déchets ménagers notamment, qui la font tourner. Racontez-moi, ça fonctionne comment ?
Eh bien, c'est relativement simple. Le but d'une usine, d'une unité de valorisation énergétique des déchets, c'est de brûler les déchets et de récupérer la chaleur produite par la combustion pour produire de l'énergie, à la fois de l'électricité et de la chaleur qui peut être ensuite utilisée et valorisée.
Et il y a combien d'usines comme ça en France qui fonctionnent sur le même principe ?
Oh, il y en a à peu près une centaine, un peu moins d'une centaine dans toutes les grandes agglomérations.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ça a un intérêt pour nous, hein, consommateurs, parce que ça permet de réduire la facture. L'économie, elle est de 70 à 100 euros par foyer sur l'année, c'est ça à peu près ?
Oui, c'est ça à peu près. Donc, l'avantage de ces unités est de produire une chaleur, donc lorsque l'usine est raccordée à des réseaux de chaleur, de produire une chaleur qui est déconnectée du coup des énergies fossiles. Et donc, effectivement, vous le citiez avant, de restituer un peu de pouvoir d'achat sur la facture de chauffage.
Benjamin, c'est vrai que cette facture, elle est importante. On a une idée, on a une fourchette aujourd'hui en France. On paye combien pour se chauffer et pour l'électricité ou le gaz d'ailleurs ?
Alors justement, les prix de l'électricité ont explosé en France ces dernières années. C'est plus 35% en 10 ans. Alors pour vous donner une idée, les ménages dépensent en moyenne plus de 1600 euros par an pour se chauffer et s'éclairer. Et ça va continuer puisque le coût pourrait augmenter de près de 3% l'an prochain. Pour les particuliers, sur leur facture, c'est une hausse par ménage de 12 euros en 2019 et 17 euros en 2020. Alors pour comprendre un petit peu le coût de l'électricité, il faut regarder de plus près sa composition, sa répartition. Un tiers, c'est les taxes. 28%, c'est le coût pour transporter ces mégawatts jusque dans vos maisons. Et pour le reste, eh bien, il s'agit des coûts d'approvisionnement.
Sébastien Maté, du coup, ça a un intérêt pour nous, évidemment, si on est chauffé par une usine comme la vôtre. Ça a un intérêt aussi pour la planète, hein, c'est important.
Oui, tout à fait, puisque l'énergie produite à partir des déchets est une énergie renouvelable et donc qui évite de brûler de l'énergie fossile pour le chauffage. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, sur le cas du Mans, donc l'alimentation des réseaux de chaleur permet d'économiser l'équivalent de 8500 voitures tous les jours qu'on retirerait de la circulation en évitant les émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère.
La population du Mans et de son agglomération, c'est environ 400 000 personnes, je crois.
L'aire urbaine, oui, c'est ça.
Combien de personnes sont alimentées grâce à vous aujourd'hui ? Combien de foyers ?
Aujourd'hui, on alimente en chaleur l'équivalent de 18 000 logements.
Que dit notre coach Frédéric Mazella ?
Alors, j'aimerais juste, alors, bravo, mais j'aimerais juste savoir une chose, c'est au niveau de, du rejet de quoi que ce soit dans l'atmosphère, il n'y a rien du tout ?
Alors, les rejets atmosphériques des unités de valorisation énergétique des déchets sont très strictement contrôlés et répondent, pour l'unité du Mans, comme pour toutes les unités en service en France, à des normes très strictes, des normes européennes très strictes.
C'est-à-dire que, enfin, quand vous dites que c'est renouvelable et que ça n'utilise pas les énergies fossiles, en fait, ça recycle d'une certaine manière nos déchets. Donc, c'est pas impossible que dans ces déchets-là, il y ait des objets qui aient eux-mêmes nécessité quand même pas mal d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre pour être construits. Mais vous, quand vous les brûlez, vous ne rémettez pas de gaz.
Pas du tout. Alors, ce sont les déchets eux-mêmes qui sont le combustible, c'est-à-dire que on ne va pas utiliser en plus de l'énergie fossile pour les faire brûler. Et donc, les rejets ensuite atmosphériques sont complètement épurés, complètement filtrés avant rejet à l'atmosphère.
Anissa,
je voulais savoir s'il y avait un travail de tri et de sélection de ces déchets avant la valorisation.
Oui, tout à fait. Donc là, tout dépend des politiques qui sont mises en œuvre par les collectivités qui gèrent la collecte des déchets. Pour le cas du Mans, bien évidemment, les déchets qui sont valorisés énergétiquement ne sont que les déchets non recyclables. Les déchets recyclables, comme le papier, le carton, partent en centre de tri pour refaire de la valorisation matière, bien évidemment.
On va extrapoler un petit peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut chauffer la France avec les déchets, il y a la possibilité de le faire, clairement ? C'est envisageable ?
Il y a un gisement sûr et certain, effectivement, pour couvrir ce besoin.
Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est Veolia, évidemment, qui est derrière ces usines et ces procédés. Je crois que ce sont, avec les usines, quelque chose comme 47 millions de tonnes de déchets qui sont valorisées chaque année ?
C'est ça, exactement, oui.
47 millions, sur la totalité des déchets, ça représente quoi ?
Sur la totalité des déchets ménagers, en France, on a à peu près à 40% de déchets qui sont ainsi valorisés énergétiquement.
Oui, ça veut dire qu'on peut encore augmenter et chauffer donc davantage de personnes.
Tout à fait, tout à fait.
Frédéric ?
Oui, j'ai deux petites questions qui me reviennent. Ça représente combien de kilos par foyer ? Combien de kilos de déchets ménagers par foyer, si on ramène au niveau individuel ? Et deuxième question, est-ce que, je pense que la réponse est non, mais je la pose quand même, est-ce qu'il y a un moyen au niveau individuel de reproduire cette prouesse, j'ai envie de dire, de recycler ces déchets ménagers pour se chauffer ?
Alors pour la première question, la production de déchets ménagers non recyclables est à peu près de 300 kilos par an et par habitant.
Mmh. Donc, oui, c'est pas rien.
C'est énorme.
Et au niveau de...
Ça permettrait de chauffer suffisamment ? C'est-à-dire, avec 300 kilos, on chauffe quoi ?
Vous voyez, sur le cas du Mans, à peu près 18 000 équivalents logements.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau individuel, un foyer qui produit 300 kilos de déchets par an, recyclables donc...
Oui, avoir une petite usine à la maison, hein,
voilà,
c'est ça, donc, Frédéric,
voilà,
l'idée.
La question d'après, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une petite usine à la maison au fond de son jardin ?
Alors, je pense que ça serait quand même assez compliqué, eu égard, et vous posiez la question précédemment, au traitement des rejets atmosphériques. Il est plus préférable d'avoir une usine centralisée dont le fonctionnement est très bien contrôlé, optimisé.
On reste ensemble, on continue à parler de notre facture énergétique sur Europe 1.
Il est 13h20.
Et si on utilisait la chaleur des ordinateurs, tiens, pour chauffer nos maisons ? C'est l'idée développée par Carnot, c'est ça aussi la France qui bouge. À tout de suite.
Sur Europe 1, la France bouge tous les jours de 13h à 14h et aujourd'hui nous découvrons les solutions innovantes françaises bien sûr pour réduire notre facture d'énergie. Vous avez vous peut-être des astuces au quotidien pour réduire votre facture d'énergie ? N'hésitez pas, venez les partager avec nous, 3921 c'est le standard d'Europe 1 et puis on lit tous vos messages, toutes vos réactions, toutes vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Nous sommes toujours avec Benjamin Lévesque qui m'accompagne aujourd'hui et avec notre coach Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. On a tous évidemment à la maison ou au travail un ordinateur branché, mais je vous laisse imaginer dans les data centers, les banques ou même ici, tiens, à Europe 1, combien d'unités tournent en même temps ? Et si on utilisait toute cette énergie ? Bonjour Paul Benoît.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé, alors j'ai dit Carnot, c'est Carnot, mais il y a un T à la fin, Computing, avec une idée assez simple, c'est d'utiliser justement toute la puissance des ordinateurs pour se chauffer, c'est-à-dire comment faites-vous ?
Alors effectivement, c'est exactement ça l'idée de départ. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nombre d'ordinateurs qui tournent, enfin on appelle ça des serveurs informatiques qui tournent dans des data centers. Donc en fait, on en met un nombre colossal. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, en France, il y a à peu près 10% de l'électricité française qui est consommée aujourd'hui par ces fameux data centers hein, pour traiter nos données à travers tous les sites web qu'on côtoie tous. Et l'idée était simple, c'est de dire, bah voilà, il y a des, en fait, il y a beaucoup de ces ordinateurs qu'on pourrait, au lieu de les concentrer dans ces data centers, les répartir dans des bâtiments, que ce soit des bâtiments d'habitation ou des bâtiments de bureaux. L'idée, elle est simple au départ. Après, il faut la mettre en œuvre.
Oui, vous allez nous expliquer comment.
Voilà, mais l'enjeu, il est colossal. L'enjeu, il est aujourd'hui, on entend parler des géants de l'informatique. C'est des centaines de milliers d'ordinateurs.
Ça veut dire que cette chaleur dégagée par les ordinateurs, par exemple ici, hein, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 écrans avec évidemment l'équivalent en dessous. Si on veut installer un radiateur ordinateur, puisque c'est ce que vous faites aujourd'hui, on a la possibilité de le faire pour chauffer, tiens, le studio d'Europe 1.
Alors, nous, aujourd'hui, on ne chauffe pas des studios de radio, un jour peut-être. On chauffe surtout des habitations avec ce type de solution. Mm-hmm. On travaille aussi sur d'autres solutions pour produire de l'eau chaude. Ce qu'on sait, c'est que les ordinateurs, c'est ce qu'il y a de plus facile à distribuer. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de déplacer des ordinateurs que de déplacer une usine, même si effectivement... Ce type de solutions sont complémentaires.
Donc vous récupérez la chaleur qui est émise par le boîtier.
Tout à fait. Et on l'injecte dans le bâtiment. Donc soit à travers un radiateur. Donc ça, c'est le premier dispositif qu'on a mis en œuvre, hein, où les ordinateurs sont dans les radiateurs. Là, on est en train de développer une chaudière qu'on va mettre sur le marché, où en fait, la chaleur est récupérée sous forme d'eau chaude. Bah, là, en l'occurrence, dans un local technique d'un bâtiment. Mais voilà, des lieux comme ça à chauffer, il y en a beaucoup. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un data center, le principal problème des ordinateurs, c'est la chaleur qu'il dégage. Et c'est le principal problème de l'autre côté, de nos concitoyens, pour se chauffer.
Oui, et ça devient un atout du coup. L'intérêt, et on ne l'a pas dit, mais c'est important, c'est que le coût pour la personne qui habite dans le logement chauffé avec un ordinateur radiateur, il est de zéro.
Alors effectivement, on crée une synergie, puisque en fait, ces ordinateurs sont utilisés à distance par des entreprises, donc qui payent pour leur usage, et nous, ça nous permet de financer l'électricité consommée par ces fameux radiateurs et du coup qu'il n'y ait pas de coût électrique. Alors aujourd'hui, quand on déploie ces bâtiments, bien sûr, il faut acheter les machines, enfin les radiateurs. Donc là, en général, on déploie des bâtiments complets. On a travaillé par exemple avec le département de la Gironde où on a développé des logements sociaux.
À Bordeaux, vous avez 4 étages d'habitation, 2 étages de bureaux.
Exactement. Donc là, on vient d'inaugurer le pôle social de la Gironde et qui sera chauffé par des calculs d'une banque qui, en l'occurrence, est un de nos clients, qui est la BNP.
Dites-moi, vous êtes modeste, hein, parce que c'est quand même une première mondiale ce que vous faites.
Tout à fait. Alors c'est une première mondiale. On peut considérer que cette idée est née en France. Aujourd'hui, le sujet, il est très important. Il faut le prendre à bras le corps. L'énergie qui va être consommée à l'avenir par la puissance informatique va être de plus en plus importante. Je pense que les gens s'en rendent compte à travers leur usage des services sur Internet. Et donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu qui est énergétique, mais aussi économique.
Que dit notre coach Frédéric Mazella?
Alors, bonjour. J'ai deux, trois petites questions. Alors, évidemment, Carnot, ça me fait penser au cycle de Carnot, de la thermodynamique.
C'est un hommage. Ça lève des
vieux souvenirs. Mais justement, s'il y a une chose dont je me souviens dans ce cycle de Carnot, c'est qu'il y a une notion de rendement.
Tout à fait.
Je voulais savoir quel est le rendement, tout simplement, énergétique de votre solution. C'est ma première question. Et la deuxième, c'est éventuellement le coût énergétique de fabrication de vos radiateurs, à savoir si au final on est sur un bilan.
Ou des chaudières bientôt.
Oui, alors tout à fait. Alors déjà, sur le rendement, pour répondre à la première question, en fait, on part du premier principe de Carnot, qui est qu'effectivement, l'intégralité de l'électricité qui est consommée par un ordinateur est dégagée sous forme de chaleur. Il ne fait pas de lumière aujourd'hui, peut-être demain, mais voilà. Donc, en fait, quand vous avez un ordinateur, toute l'énergie que vous mettez dedans va terminer sous forme de chaleur. Donc après, il faut être capable de la récupérer. Si vous devez la transporter, ça devient un peu complexe parce que vous n'avez pas une chaleur à une très forte température. Et effectivement, là, c'est plus difficile de transporter de l'eau à 40 degrés, à 50 degrés. Par contre, si vous produisez sur place, vous pouvez beaucoup plus facilement la récupérer et la valoriser. C'est une chaleur douce. Un ordinateur, vous l'avez tous constaté, quand ça chauffe maximum dans les 50-60 degrés, ce qui est parfait pour du chauffage. Mais l'intégralité est récupérable.
D'accord, donc l'intégralité, donc c'est 100%.
C'est 100%, oui, tout à fait. Parce que vous n'avez pas de rayonnement, vous n'avez pas de l'intégralité aujourd'hui et dégagée sous forme de chaleur. Pour répondre à votre
deuxième question.
À votre deuxième à votre deuxième question, qui était
le coût énergétique de fabrication.
Le coût énergétique de fabrication. Aujourd'hui, nous, on fabrique alors des dispositifs. En l'occurrence, si on parle des radiateurs, qui sont intégralement en aluminium, complètement recyclables. En fait, comparé à un ordinateur classique, on a même moins de parties qui sont non recyclables. Dans un ordinateur, souvent, ce qui est pas recyclable, c'est les écrans, la connectique, etc. Nous, c'est vraiment réduit à son minimum. Donc, on est ni plus ni moins que sur à peu près la même chose que ce qu'on va trouver pour la fabrication d'un ordinateur classique.
Benjamin, vous avez trouvé d'autres techniques pour réduire la consommation d'énergie? Vous avez ça en magasin?
Oui, on a par exemple la start-up EcoJoco. Ce sont deux ingénieurs français, un passionné d'écologie, et qui ont créé un assistant d'économie d'énergie. Alors c'est d'abord un capteur que l'on va mettre sur le disjoncteur, et puis un boîtier qui permet de suivre sa consommation en temps réel. On va donc avoir le détail de sa consommation, mais aussi surtout des conseils pour réduire sa facture. Par exemple, débrancher tel appareil à tel moment de la journée. La promesse, c'est d'économiser 25% sur sa facture d'électricité.
Merci Benjamin. On reste ensemble. On continue à parler de votre facture d'énergie. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Je vous propose d'agir en amont cette fois pour vous aider à améliorer votre isolation. C'est ce que propose Action Air Environnement, qui fait de la thermographie aérienne. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et nous découvrons aujourd'hui les solutions innovantes. Elles sont nombreuses, elles sont françaises pour réduire notre facture d'énergie. Vous êtes vous aussi très nombreux à réagir à cette émission et à partager vos astuces pour réduire vos factures d'énergie. Continuez Twitter, hashtag Europe 1, et puis on attend vos appels également au 3921. C'est le standard d'Europe 1, Raphaël.
Toujours avec notre coach aujourd'hui, c'est Frédéric Mazella qui nous accompagne, fondateur de Blablacar, et Benjamin Lévesque qui est là pour nous donner toutes les petites astuces, les infos qui nous ont échappé. Vous avez peut-être chez vous une porte qui ferme mal, une perte de chaleur tient par les combles ou une fenêtre qui est mal isolée et vous ne le savez peut-être pas. Forcément, qu'est-ce qui se passe? La facture grimpe. Et si on pouvait vous le dire sans que vous soyez obligé de faire réaliser un diagnostic qui est parfois, c'est vrai, assez onéreux? C'est ce que propose Action Air Environnement. Bonjour Alexis Jordana.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous avez des avions, je crois 16 au total, qui sont équipés pour survoler des villes, prendre une photo, les maisons, les immeubles, et voir, grâce à un code couleur, je crois, les endroits où il y a une déperdition d'énergie. J'ai bien résumé?
C'est parfaitement résumé. Ça va un peu plus loin que ça, mais effectivement, on a développé un concept hautement technologique qui permet, avec un certain nombre d'avions qui spécialement équipés, bien entendu, et en permanence avec leurs équipements, qui leur permet de très rapidement, donc à grande échelle, avec une très grande échelle, mesurer et établir une cartographie absolument complète de l'ensemble des territoires, donc d'une ville, d'une métropole. Et lors de ce même vol, non seulement on arrive à identifier les déperditions de chaleur avec une précision qui est à la tuile près, c'est-à-dire qu'on voit par des algorithmes particuliers à quelques centimètres près où c'est qu'il y a des déperditions. Et ça va également, par la même chose, on voit avec nos voisins et amis qui sont sur ce plateau. Ah oui. Donc on peut mesurer également et leur donner l'état de leur réseau de chaleur urbain. Par la même occasion, on fait l'intégralité des éclairages publics des villes.
Oui, alors ça veut dire que quand vous passez au-dessus, allez, on va passer au-dessus du 15e arrondissement, là, à Paris, vous êtes capable de nous dire exactement à quel endroit il y a une fenêtre qui ferme mal ou il y a une déperdition de chaleur en fonction de ce que va voir l'avion qui est passé au-dessus?
Oui, c'est ça. Enfin, c'est déjà un peu plus résilient, c'est-à-dire une fenêtre qui vient d'être ouverte sur les façades. Ce n'est pas tellement le but de la mesure. Pour l'instant, c'est quand même au niveau des toits.
Non, mais si elle est mal isolée, par exemple, vous le voyez.
Voilà, on voit surtout les défauts d'isolation, les passoires énergétiques, comme il était dit il y a quelques jours dans Le Monde, la fin des passoires énergétiques. Eh bien, on souhaiterait que la fin des passoires énergétiques passe par nous, c'est-à-dire qu'on est capable très rapidement, à 250-300 km/h près, de faire l'intégralité des territoires. Et suite à ça, à ce moment-là, vous savez, c'est un peu comme une entreprise. S'il faut réinjecter du capital dans une entreprise, s'il faut la redresser ou avoir des mesures dans un sens ou dans l'autre, il faut faire ce qu'on appelle un bilan, une comptabilité.
Alors, ce sont les collectivités qui viennent vous voir parce que ce ne sont pas les particuliers qui peuvent se payer un avion, évidemment.
Non, ce sont les collectivités, l'Europe. Là, on a fait les deux tiers de la Belgique, c'est des projets européens pratiquement. C'est les communautés de communes et les métropoles.
500 villes, c'est ça, sur 5 ans ?
J'ai pas compris.
500 villes survolées en 5 ans ?
Oui, on a fait 500 villes là, depuis que le concept est au point. La thermographie existait, mais c'était des petites caméras que quelqu'un avait sous un hélicoptère ou sur une voiture. Là, on a vraiment développé un système à partir de gros capteurs, le même type de capteurs que vous trouveriez sur des satellites, qui ont été intégrés dans des avions bimoteurs pour la sécurité. Et qui sont capables de faire cette thermographie à très grande échelle.
Benjamin, il y a des initiatives qui ressemblent un petit peu à ce que fait Action Air Environnement, vous avez trouvé ?
Oui, qui ressemblent beaucoup même, c'est la société TechniVue. Alors l'idée, c'est de mettre non pas un avion, mais un drone dans le ciel pour repérer les problèmes d'isolation. On appelle ça la thermographie. Alors c'est mieux de la faire l'hiver, hein, puisqu'il faut un écart de 15 degrés entre la température à l'intérieur du logement et l'extérieur. C'est un dispositif gratuit offert par GRDF et qu'il a testé dans un quartier de Lyon. On a donc eu 270 villas qui ont été survolées à près de 30 mètres de hauteur. La cible, c'est bien sûr des maisons de plus de 15 ans, hein, potentiellement moins bien isolées que celles construites plus récemment. Et les riverains ont ensuite accès aux photos thermiques de leur maison et ils peuvent savoir où ils perdent de la chaleur et donc savoir où exactement il faut faire les travaux.
Oui, c'est pareil avec vous, effectivement, parce que vous pouvez, si vous êtes particulier, aller demander à la collectivité la photographie de la maison.
Bien sûr, c'est-à-dire que nous faisons des salons de restitution complets où toutes les villes viennent nous voir. GRDF est d'ailleurs un client. Nous n'utilisons pas de drone parce que ça revient 100 à 400 fois plus cher que nous. Pendant qu'un drone va faire deux ou trois maisons, nous, on fait plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoire. Mais on peut utiliser un drone si on avait une maison...
En particulier.
Où on aurait raté quelque chose parce qu'il y aurait un gros coup de vent, une turbulence. À ce moment-là, effectivement, on pourrait utiliser un drone pour faire une ou deux maisons, mais ce n'est pas une technologie à grande échelle comme ce que nous faisons. Par contre, ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est qu'on remet dans la main du particulier et de l'habitant vraiment l'état de sa maison, l'état thermique.
Oui, ça, c'est important.
Et il peut lui-même se l'isoler et avec ça faire des gros gains. Le but, c'est que... Il y a deux objectifs, c'est faire baisser les gaz à effet de serre et permettre aux gens d'avoir une maison beaucoup plus douillette, beaucoup plus confortable et chaude, et surtout avoir une facture énergétique bien réduite.
Beaucoup moins douloureuse. Que dit notre coach Frédéric Mazella ?
Alors effectivement, moi je me dis, ça donne vraiment envie d'aller regarder comment se comporte le bâtiment ou la maison dans laquelle on habite. Donc comment on fait pour trouver la source d'information ? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller et puis regarder quel est le... qui peut répondre, quelle est la dépendance d'énergie du logement dans lequel j'habite ?
Absolument, donc vous avez deux grands canaux. Bon, le premier, le troisième, je dirais, c'est les salons de restitution, mais surtout, nous sommes, vous allez dire, un peu comme tout le monde, on parlait tout à l'heure de data center, donc on fait du big data, c'est-à-dire qu'on a déposé le thermoportail. Si l'État français a le géoportail, nous on a le thermoportail qui va permettre d'avoir toutes les villes qui ont été thermographiées en direct live. Vous avez une application sur votre smartphone et vous avez votre villa qui apparaît. On a déjà 200 ou 300 villes dessus. Et la deuxième chose, c'est les villes s'impliquent énormément dans cela. Et les villes créent ce qu'on appelle les espaces énergie information. Et les mairies vous renseignent. Il y a des gens qui vous renseignent toute l'année, qui vont vous donner rendez-vous, qui vont vous remettre les images de vos maisons.
Merci de cette intervention. Vous gardez votre question ?
Mais c'est la même. Est-ce qu'il y a une adresse web pour aller voir ?
L'adresse web ?
Je ne l'ai pas trouvée.
Ah, l'adresse web.
Pour l'instant, c'est celle de chaque ville. C'est-à-dire si
vous faut que vous fassiez la démarche.
Comme si vous mettez
www. Il faut bosser un petit peu.
Thermoportail Montpellier, Thermoportail Dunkerque.
Oui,
exactement.
Ou Action Air, selon les villes. Pour l'instant, les villes ont souvent chacune voulu un nom particulier. Donc, il faut se renseigner souvent dans les mairies. Mais on va mettre... On va mettre sur Thermoportail un pointage sur toutes les villes rapidement qui vous permettra d'accéder de suite.
On reste ensemble, on continue à parler factures énergétiques sur Europe 1. Il est 13h29. 39-21, on vous attend. Venez nous donner vos solutions sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités aujourd'hui. Nous découvrons les solutions innovantes françaises pour réduire notre facture d'énergie. Vous en avez, vous aussi, des petites astuces comme ça au quotidien pour réduire votre facture. Eh bien, venez les partager avec nous. 3921, c'est le standard d'Europe 1. Et puis, on lit tous vos messages. Ils sont nombreux aujourd'hui sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
À mes côtés, Benjamin Lévesque qui m'accompagne jusqu'à la fin de cette émission. Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, qui est notre coach aujourd'hui en studio, ici, sur le plateau d'Europe 1, Sébastien Maté, directeur de l'usine Synerval au Mans, Paul Benoît, cofondateur de Carnot Computing, et Alexis Giordana, président d'Action Air Environnement. Trois solutions qui nous permettent très concrètement de faire baisser finalement notre facture d'énergie. Vous en avez vous aussi, comme Roger peut-être, qui nous appelle de Montarin et Saint-Médier dans le Gard. Bonjour Roger. Roger ?
Allô ?
Oui, vous êtes là ? Bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous utilisez des panneaux solaires, vous, je crois.
Alors, effectivement, je suis à la fois producteur d'électricité avec l'intermédiaire des panneaux solaires et au profit d'EDF et à mon profit aussi, mais également en autoconsommation.
Ah, et alors ça marche bien ?
Alors, ça marche très très bien. À la réserve que la première année d'exploitation des panneaux solaires en autoconsommation, Enedis a été tellement étonné de la baisse de la consommation... Ils m'ont fait un redressement de 1000 euros, carrément, ce qui représentait quand même 80% de ma facture habituelle. Et il a fallu que je me batte pendant des mois avec l'intervention du médiateur de l'énergie qui a été efficace, mais insuffisamment. Et ce pourquoi je me permettais d'intervenir aujourd'hui, c'est que économiser sur sa facture d'énergie, certes, c'est possible. Mais c'est pas facile.
Oui, c'est pas facile et il faut se battre parfois contre les groupes qui pensent qu'on a bidouillé. Merci beaucoup de votre appel, Roger. Je crois qu'on a pas mal de messages aussi, Anissa, sur le hashtag Europe 1,
oui,
sur le Twitter d'Europe 1.
Très nombreux, effectivement. Il y a Nordal qui nous dit « Pour faire des économies, je n'allume plus les radiateurs électriques car mes factures s'envolent. Maintenant, je chauffe au bois uniquement. » Alors, on a des messages et des astuces qui parfois peut-être un petit peu dangereux. Justin nous dit « Afin de réduire ma facture d'énergie, ma technique consiste à n'utiliser qu'une seule prise dans toute ma maison. Je relie donc mes appareils à l'aide de multiprises. »
Alors, on a Alex aussi qui nous dit « Mes grands-parents, originaires de Sevron, ont un chauffage géothermique. C'est très impressionnant. Ils réduisent leur facture d'environ 15%. La géothermie, c'est vrai que c'est une solution. Qui veut en parler, qui connaît et qui a déjà testé ? Non, personne autour de la table.
Nous, on a indirectement touché à ce sujet-là parce qu'effectivement, il y a un des sujets avec les data centers qui est de réinjecter la chaleur dans les nappes pour faire de l'accumulation de chaleur pour qu'on puisse aller en récupérer dans la nappe plus tard. Parce qu'un des problèmes, c'est qu'au bout d'un moment, on a pompé toute la chaleur de la nappe. Donc ça peut, et si on veut avoir des solutions efficaces, il faut aller chercher assez profondément la chaleur, ce qui peut coûter très cher. À l'installation. En revanche, après, à l'utilisation, après, c'est
intéressant.
C'est très intéressant.
Alexis Giordana ?
Oui, c'est vrai que nous avons eu un programme de recherche sur les sources géothermiques par avion. Et ça donne des très, très bons résultats. Et ça permet justement d'éviter le problème dont vient de parler notre ami. Ça évite d'aller trop profond. Parce que si les sources sont effleurantes, et on arrive à repérer ça, parce que si elles sont à quelques mètres sous terre, on voit parfaitement depuis un avion thermique. Et c'est vrai que c'est une piste vraiment à développer. Il y a de très, très grosses économies et des très gros potentiels thermiques dont on
à
peut
exploiter,
profiter
oui.
De façon relativement saine.
Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure et je me dis que finalement, si on met bout à bout toutes ces solutions, on a vraiment les moyens de faire baisser de manière importante la facture des Français. On rappelle qu'elle a quand même augmenté 35% en 10 ans. C'est ce que nous disait Benjamin Lévesque. Est-ce qu'on a cette synergie aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez que les choses sont en train de bouger ?
Oui, tout à fait. Pour reprendre l'exemple du Mans, on voit de tels projets nécessitent d'une part une volonté politique, donc en l'occurrence au Mans, donc la communauté urbaine qui souhaitait moderniser, optimiser ses outils, et de l'autre côté des solutions. Donc, par exemple, c'est le cas de Veolia, d'apporter une solution aux collectivités qui souhaitent mettre en œuvre leur transition énergétique, mettre en œuvre des boucles d'économie circulaire et dans notre cas, donc faire du déchet une ressource.
Le coach, Frédéric Mazella.
Moi, j'ai juste une petite remarque. Il y a quand même deux solutions qui ont été évoquées dont j'ai un petit peu peur, honnêtement, personnellement. Bah, je ne sais pas brancher tous les appareils électriques sur une seule prise. Je sais exactement ce qu'on m'a appris à ne pas faire. Depuis que je suis tout petit, j'ai peur que ce soit quand même quelque chose... Enfin, après, il y a des fusibles,
normalement. C'est pas une solution qu'on a évoquée. Hein. C'est un auditeur qui fait ça, effectivement, chez lui.
De mentionner que ce n'est probablement pas une super idée. Enfin, en tout cas, il doit y avoir... il y a des fusibles pour ça, j'espère. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que se chauffer au bois plutôt que se chauffer électrique, alors très bien, effectivement, peut-être ça permet de réduire temporairement la facture. Par contre, je pense qu'au niveau environnement, au niveau émission des gaz à effet de serre, on n'y est pas. Donc, faut faire attention, on paye toujours d'une autre manière.
Juste un point précis, Alexis Giordana, vous disiez tout à l'heure, on a envie d'être au niveau européen, peut-être même plus. Vous avez les moyens aujourd'hui d'être une sorte de portail sur les données environnementales. C'est quelque chose que vous avez en tête?
Oui, absolument. Notre objectif, clairement, est d'être le Google Earth des données environnementales. C'est pour ça qu'on cherche à établir un data center. Et
oui, à la française.
on a un nombre d'avions suffisant puisqu'on a déjà une quinzaine de machines. Et mais il faut maintenant peut-être créer des partenariats avec des grands groupes comme Veolia, comme certaines d'autres qui sont déjà en pour parler avec nous, puisqu'on ne peut pas continuer tout seul à faire de telles choses. C'est pas un appel à partenariat, mais un peu quand même.
Ah bah, écoutez, s'il est entendu, tant mieux.
Et c'est vrai qu'on apporte une vraie solution concrète, mais il faut qu'il y ait une volonté politique et générale, parce qu'on vient de promettre 4 milliards d'investissements pour la rénovation énergétique. On ne peut pas donner de l'argent au hasard en fonction des demandes locales. Il faut qu'il y ait un instrument de monitoring qui vérifie, c'est ce qu'on fait. Donc on donne les images, elles sont offertes. Et avec ça, les financements peuvent aller directement de bonne loi là où il faut. Et on peut aider déjà les gens qui sont en précarité énergétique. Et c'est une des réponses même aux crises que nous sommes en train de vivre.
Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette émission. Hein, parce qu'effectivement, c'est un des mots d'ordre des Gilets jaunes aujourd'hui, dire on en a marre de payer des factures d'énergie qui sont trop lourdes. J'espère qu'en tout cas, avec les solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui, on aura en partie été entendu. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Il est 13h39.
Europe 1.
Elle est installée depuis 1844 à Chambéry. Alpina Savoie fabrique des pâtes françaises et c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
La France bouge sur Europe 1, tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, vous nous présentez une entreprise française qui va bien, Raphaël. Celle d'aujourd'hui a un goût de Madeleine de Proust et va nous rappeler nos repas d'enfants.
Oui, cette entreprise, vous la croisez probablement dans les placards de votre cuisine. C'est Alpina Savoie. Bonjour Jean-Philippe Lefrançois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Alpina Savoie, fondée à Chambéry en 1844, c'est-à-dire quand la Savoie n'était pas encore française.
Exactement, puisque la Savoie est devenue française en 1860. Et le fait justement que la Savoie est encore attachée au royaume du Piémont-Sarde permet d'expliquer aujourd'hui notre forte attachement aux fabrications des pâtes et justement d'avoir hérité de ce savoir-faire italien pour la fabrication des pâtes et aussi des spécialités comme les creusets.
Alors, à l'époque, c'est Antoine Chiron hein, qui est meunier, 1860. Comment est-ce qu'il a l'idée de transformer le blé en semoule et la semoule en pâte?
Alors, l'histoire d'Alpina Savoie et d'Antoine Chiron vient du fait qu'il y avait beaucoup de... À l'époque, on n'appelait pas ça des pastiers, mais on appelait ça des vermicelliers en Savoie, puisque c'était une tradition de transformer la semoule en vermicelle. Et donc, Antoine Chiron a fondé son moulin, a transformé le blé dur en semoule, puis a fondé aussi une entreprise de fabrication de pâtes et de vermicelles, notamment à l'époque.
Et la famille a toujours poursuivi le travail d'Antoine. Je crois qu'aujourd'hui encore, on est à la sixième génération et il y a encore un meunier dans la famille. C'est lui qui fait tourner le moulin.
Justement, oui, exactement. Alors, il s'appelle aussi Antoine Chiron. Alors, nous, on se plaît à dire que le creuset, c'est notre fontaine de jouvence à nous. Hein. C'est-à-dire que voilà, on boucle la boucle. Et justement, le fait qu'on ait cette sixième génération nous permet de continuer à perpétuer ce savoir-faire traditionnel et ce fort attachement entre la fabrication de la semoule et des pâtes et justement l'approvisionnement en blé dur français avec des spécificités de qualité qui font qu'on achète des blés de qualité meunière justement pour les transformer en pâtes.
Oui, et c'est important de le signaler. C'est un des cinq cinq derniers moulins de blé dur français, c'est assez rare.
Alors c'est extrêmement rare, donc c'est justement ce qui fait la particularité d'Alpina, c'est qu'on a cette capacité à faire la première transformation, transformer le blé en semoule et la semoule en pâte. C'est ce qui nous permet d'assurer justement tout au long de la filière la maîtrise de la qualité de nos approvisionnements et de nos pâtes, puisqu'on est également entreprise du patrimoine vivant et reconnue pour notre savoir-faire traditionnel, puisqu'on a perpétué des savoir-faire d'origine, puisqu'on utilise des moules bronze, du séchage lent, et la transformation du blé a toujours été intégrée dans notre fabrication.
Et vous avez été aussi les tout premiers à mettre en place une filière bio. C'est important ça pour vous aujourd'hui?
C'est extrêmement important parce que justement cette maîtrise de filière qui nous vient de la proximité avec le monde agricole liée à notre passé de meunier historique fait qu'on a accompagné le développement d'une filière bio française en blé dur bio. Une filière qui aujourd'hui existe depuis une douzaine d'années chez nous et on en achète 90% des volumes disponibles parce que la difficulté en France aujourd'hui, c'est justement de continuer à pouvoir développer ces filières bio.
Vous avez pris le parti aussi, et ça c'est important de le dire, de mieux rémunérer les agriculteurs avec lesquels vous travaillez. Je dis parti pris parce que c'est véritablement une démarche à part.
Oui, complètement. Alors c'est une démarche qui est aussi inscrite dans nos gènes parce que notre acheteur aujourd'hui de blé, il est agriculteur, meunier de formation. Il n'a pas fait d'école de commerce ou il n'a pas eu de formation d'achat. Et c'est important pour nous de pouvoir continuer à avoir ce partenariat avec nos agriculteurs et pour les accompagner dans l'évolution de leur démarche agricole. Il faut les rémunérer pour qu'ils puissent justement aboutir à cette démarche et la financer.
Que dit notre coach ?
J'ai deux questions. La première, c'est vous affichez donc effectivement que vous êtes une entreprise plus durable. Ça prend quelle dimension, notamment, je ne sais pas, agriculture sans pesticides, commerce équitable, des choses comme ça. Et ma deuxième question, qui est un petit peu plus simple, il ressemble à quoi votre moulin ? Parce que vous devez quand même avoir une sacrée production. Donc, je ne sais pas si c'est encore un moulin comme on se l'imagine dans notre imaginaire ou si c'est une grosse machine.
Comme celui de Daudet, c'est ça ?
Voilà. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Ça ne ressemble plus du tout à un moulin d'Alphonse Daudet, hein, c'est très clair. Aujourd'hui, c'est un matériel qui est extrêmement moderne, justement, parce que par souci de qualité, on est obligé d'avoir une très bonne matière première pour faire des bonnes pâtes. Et le moulin est un élément essentiel pour la qualité de la matière première. Donc on a été pendant longtemps un des moulins les plus modernes d'Europe, justement pour pouvoir cette qualité qui fait la différence.
D'accord, mais c'est quand même un moulin qui est branché sur une rivière.
Non, aujourd'hui, non, on n'est pas du tout dans ce type de fonctionnement. On est sur des fonctionnements avec des productions électriques. Et aujourd'hui, la production aujourd'hui du moulin est plutôt axée sur la qualité du produit, sur la transformation. Et on ne peut pas faire aujourd'hui ce type de qualité avec un processus traditionnel comme on avait avant avec de l'entraînement hydrique.
Et sur la deuxième partie de la question, je crois qu'il y a une nouvelle pâte qui vient de sortir, hein, c'est l'épinette. Ça répond en partie à ce que demandait Frédéric Mazella, blé dur sans résidus de pesticides.
C'est ça, exactement. Donc l'épinette qui a une forme d'épi de blé est complètement le symbole de cette nouvelle filière qui exprime justement le lien entre la pâte et le blé qui est à l'origine. Et donc aujourd'hui, notre souci, ça a été de développer une troisième voie de culture pour l'approvisionnement en blé, puisqu'on va dire qu'il y a le blé conventionnel, le blé bio qui est chez nous garanti sans utilisation de pesticides et sans résidus. Là, on a créé une filière qui est sans résidus de pesticides, garantie sans résidus de pesticides, donc qui est issue d'une agriculture raisonnée avec une très, 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 très grande maîtrise des intrants et notamment des apports en pesticides, parce que les conditions et le mode de production agricole a énormément évolué avec les nouvelles technologies, notamment la mise en place de drones et d'analyses très spécifiques sur les champs qui permettent de mettre juste ce qu'il faut, quand il faut, pour avoir le zéro résidu de pesticides garanti.
Et je précise qu'Alpina Savoie, aujourd'hui, c'est 140 personnes qui travaillent, hein, 39 000 tonnes de produits qui sortent de chez vous et que, pour répondre aussi à Frédéric, il y a des paquets avec des encres végétales, c'est important de le signaler, et le carton vient de forêts où on préserve également les arbres. Voilà ce que c'est aussi une entreprise qui va bien aujourd'hui en France du côté de Chambéry. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1.
Et si les entreprises faisaient appel, tiens, à des étudiants pour qu'ils arrondissent leur fin de mois, c'est possible. C'est Student Pop et c'est la solution. À tout de suite.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et chaque jour, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Celle-ci va plaire aux étudiants.
Oui, vous êtes étudiant et vous voulez mettre un pied dans le monde du travail ou peut-être vous êtes entrepreneur et vous avez des missions à confier. Pourquoi pas lier les deux tout simplement. C'est la solution. Benjamin, ça s'appelle Student Pop.
Oui, c'est simple et très rapide. Vous êtes dans une entreprise et vous avez besoin d'un salarié pour une courte durée. Eh bien,
Vous décrivez votre mission et la plateforme Student Pop s'occupe du reste. Student Pop va faire passer des entretiens individuels et réaliser des briefs précis aux étudiants qui ont envie de venir travailler. Alors tous les étudiants peuvent le faire, c'est une façon d'arrondir ses fins de mois, pardon, avec un tarif unique à l'heure, c'est 19 euros, soit 30% de plus que le SMIC.
Bonjour Auriel Darmon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Student Pop. Alors d'abord, bravo parce que vous venez de lever 3 millions d'euros. Tout ça pour aider justement les étudiants à trouver un boulot. Vous existez depuis 2 ans, je crois. Quel est le principe ?
Alors le principe, comme il a été décrit rapidement, Student Pop, c'est la start-up française qui cherche à réinventer et révolutionner le job étudiant. En mettant le digital au service de l'humain. Concrètement, pour les étudiants, vous l'avez décrit côté entreprise, mais côté étudiant, c'est je viens passer un entretien dans nos bureaux à Paris ou à travers Skype en province, et ensuite j'ai accès à des missions qui viennent directement vers moi sur mon smartphone que je peux accepter ou refuser en fonction de mon emploi du temps. Et ces missions, elles vont correspondre à mon profil, à mes envies, à mes centres d'intérêt. Et donc, ça va me permettre d'étudier en même temps que travailler.
Alors, vous dites que vous voulez révolutionner le job étudiant. Pourquoi ?
Alors, si vous avez été étudiant et cherché du boulot jusqu'à présent en tant qu'étudiant, bah, vous avez dû être confronté à certaines expériences qui n'étaient pas forcément positives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on cherche du boulot et qu'on est étudiant, on dépose son CV dans des centaines de magasins, de bars. On nous demande toujours d'avoir une première expérience qu'on n'a pas. Du coup, on est obligé de mentir sur sa première expérience, qui n'est pas très valorisant comme premier rapport au boulot. Ensuite, on va aller sur des sites de petites annonces. On va répondre à des centaines de petites annonces. On ne va souvent pas avoir de réponse. Et quand on a une réponse, elle est souvent négative. Et enfin, on a des agences de street marketing, des agences d'animation commerciale, des agences d'hôtesse qui sont souvent discriminantes. Il faut faire plus d'1m70, il faut avoir un certain profil. Et tout ça fait que ce premier pas dans le monde de la vie active est compliqué. Et Student Pop est une solution qui permet de simplifier. Ça correspond bien aux étudiants, c'est sur leur smartphone. Et on fait attention à chacun des étudiants qui travaillent avec nous.
Que dit le fondateur de BlaBlaCar, tiens ?
C'est super, moi je trouve ça très très bien encore une fois, effectivement je pense qu'il y a une vraie difficulté, enfin, on l'a tous vécu quand on était étudiant et on le vit tous en tant qu'employeur aussi quand on a besoin éventuellement d'avoir des étudiants qui pourraient travailler pour nous. Alors là, j'ai des petites questions pratiques, mais quel est le nombre d'heures en moyenne que les étudiants réalisent quand, une fois qu'ils s'inscrivent sur Student Pop, et quel type de contrat ils ont, comment c'est géré?
Alors, en moyenne, un étudiant qui travaille avec, qui fait partie de Student Pop, qui rejoint Student Pop, il gagne 250 euros par mois. C'est une vingtaine ou une trentaine d'heures par mois. Pour ce qui est du type de contrat, il travaille avec le statut auto-entrepreneur. Il faut savoir que le statut auto-entrepreneur, il est hyper pratique pour les étudiants, puisque les étudiants, ils ont à la fois leur statut étudiant, c'est-à-dire qu'ils ont leur mutuelle étudiante. Ils cherchent bien un complément de revenus, donc ils cherchent bien quelques heures de plus de travail pour financer leurs études. Et donc, ils vont pouvoir avoir l'avantage du statut étudiant avec cette mutuelle et l'avantage du statut auto-entrepreneur, qui au niveau administratif est super simple, qui au niveau des charges est avantageux. Et Student Pop a mis en place une RC Pro, une prévoyance, un certain nombre, un filet sécuritaire au cas où ces étudiants mettent le feu chez le client ou se blessent en allant sur le lieu de leur mission.
D'un mot, vous êtes présent partout en France aujourd'hui ?
Exactement, on est présent dans plus de 35 villes de manière importante, mais on a été capable pour des entreprises comme Lagardère ou Deliveroo ou autres d'accompagner à travers toute la France.
Ça s'appelle Student Pop, merci d'être venu nous en parler. Merci à Benjamin qui était avec nous aujourd'hui et à notre coach Frédéric Mazella. On se retrouve demain, nous parlerons hôtellerie française.
Avec plaisir, à demain à partir de 13h pour La France Bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin. À 14h pile, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelatte et ses incroyables récits. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un cas non résolu. L'assassinat de Paquita Parra près d'Angoulême en décembre 1998.
L'affaire Paquita Parra et ses mystères, c'est à 14h pile sur Europe 1 avec Christophe Ondelatte.